VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui, au sommaire ce soir. Pour parler entre les Russes et les Ukrainiens au cinquième jour de l'invasion russe. La Russie est au banc des accusés devant l'Assemblée générale des Nations unies. Des centaines de milliers de personnes tentent de fuir l'Ukraine, dont beaucoup d'Africains. Nous aurons le témoignage d'un Burkinabé qui a pu rejoindre la Pologne. Au Burkina Faso, des assises nationales ont lieu pour fixer la durée de la transition. Rapport de l'ONU sur le climat, la moitié de la population mondiale est d'ores et déjà très vulnérable aux impacts du changement climatique. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au cinquième jour de l'offensive russe en Ukraine, le Bélarus, allié de Moscou, abrite des discussions entre Ukrainiens et Russes. Sur le terrain, la progression des troupes russes semble ralentie par une résistance inattendue côté ukrainien. Nous faisons le point avec Abdourahman Dia.
Des scènes de destruction et de désolation, comme ici à Okhitirka, dans le nord-est ukrainien, où les bombardements russes ont fait 4 morts, tous des civils dimanche. Les forces ukrainiennes tentent de ralentir la progression des troupes russes dans plusieurs localités et des combats se déroulent toujours autour de Kiev, la capitale, même s'ils semblent de moindre intensité. Mais la deuxième ville du pays, Kharkiv, est soumise à un bombardement aérien russe, selon le gouverneur régional, qui dit craindre des dizaines de morts. Pendant ce temps, les Occidentaux accentuent leur pression sur la Russie, avec notamment des sanctions supplémentaires. Le département du Trésor américain a pris ce lundi une mesure inédite, l'interdiction avec effet immédiat de toute transaction avec la Banque centrale russe. Les Européens ont pris des mesures visant directement l'institution monétaire russe également. Bruno Le Maire, ministre français de l'économie.
L'intégralité des avoirs de la Banque centrale russe ont été gelés cette nuit. Cela représente des sommes très significatives, en dizaines de milliards d'euros, qui entament largement les réserves de change de la Banque centrale russe et sa capacité à financer le commerce russe en devises. Les effets immédiats de cette décision sur la Banque centrale russe sont déjà visibles en Russie, sur le niveau du rouble, sur les taux d'intérêt et sur le marché financier russe.
Face à ces sanctions qui ont fait chuter la monnaie russe, le rouble, le président Vladimir Poutine dénonce ce qu'il appelle l'empire du mensonge. Le chef de l'État ukrainien, Volodymyr Zelensky, lance un appel à l'Union européenne pour l'adoption rapide de son pays au sein de l'organisation.
Nous appelons l'Union européenne à l'adhésion immédiate de l'Ukraine via une nouvelle procédure spéciale. Nous sommes reconnaissants à nos partenaires d'être avec nous, mais notre objectif est d'être avec tous les Européens, eux surtout d'être égaux.
Un appel qui risque de ne pas plaire à Moscou, mais déjà soutenu par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Sur le plan diplomatique, les 193 membres de l'Assemblée générale des Nations unies se réunissent ce lundi en session extraordinaire d'urgence pour débattre du conflit en Ukraine, alors que les deux belligérants ont envoyé des délégations au Bélarus pour tenter de résoudre le conflit par le dialogue.
Et en quittant la table des négociations, les délégations russes et ukrainiennes ont convenu vouloir un deuxième round de pourparlers. Les États-Unis ont affirmé n'avoir détecté aucun changement concret dans la posture nucléaire de la Russie et ont confirmé que les forces de Moscou étaient toujours ralenties dans leurs avancées vers Kiev par la résistance créative des Ukrainiens. Plus d'un demi-million d'Ukrainiens fuyant l'invasion de leur pays ont afflué depuis jeudi dans des pays frontaliers selon le dernier recensement de l'ONU publié lundi. La haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, affirme qu'au moins 102 civils ont été tués et 304 autres blessés. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Le bilan réel des combats pourrait s'avérer considérablement plus élevé, a prévenu la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Conséquence, plus de 500 000 personnes ont fui d'Ukraine vers des pays limitrophes, a tweeté Filippo Grandi, le haut commissaire aux réfugiés de l'ONU. Quelques 281 000 personnes ont trouvé refuge en Pologne, selon un dernier décompte, La Hongrie a accueilli plus de 84 000 réfugiés et d'autres sont partis vers la Moldavie, la Roumanie et la Slovaquie. Le HCR précise que plus de 34 000 réfugiés ont poursuivi leur route vers d'autres pays européens et l'Union européenne dit s'attendre à plus de 7 millions de personnes déplacées. Devant les difficultés à l'accueil, la plateforme américaine Airbnb a annoncé aujourd'hui qu'elle offre un hébergement gratuit à 100 000 Ukrainiens fuyant les combats. Les pays de l'Union européenne ont convenu de mettre en place un hub humanitaire à partir de la Pologne pour acheminer l'aide en Ukraine, a déclaré aujourd'hui le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.
L'Union africaine s'est dite préoccupée sur la façon potentiellement choquante et raciste dont sont traités les Africains cherchant à fuir l'Ukraine. Les gouvernements de pays africains tentent actuellement d'aider leurs ressortissants figurant parmi les centaines de milliers de personnes qui tentent de fuir l'Ukraine vers les pays voisins, dont la Pologne. Dans la partie magazine, nous aurons le témoignage d'un Burkinabé qui a pu fuir l'Ukraine pour se rendre en Pologne voisine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, des assises nationales se tiennent depuis ce matin. Elles doivent déterminer la durée de la transition et désigner le président de transition qui sera investi mercredi prochain. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
À la salle de conférence du quartier Ouagadougou, les assises nationales se sont ouvertes ce matin. Elles vont se pencher sur l'adoption des textes régissant la transition. Le lieutenant-colonel Evrard Somda, nouveau patron de la gendarmerie nationale, a représenté le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Ces assises qui représentent toutes les composantes de la nation burkinabè sont l'occasion pour toutes les forces vives de la nation de connaître et d'examiner en profondeur et sans complaisance les projets de texte et d'agenda de la transition, a indiqué le représentant du lieutenant-colonel Damiba. L'objectif est principalement d'apporter des amendements au projet de charte de la commission technique, de l'enrichir et de le valider. L'ambition à terme est de fournir un guide aux actions à entreprendre pour conduire notre pays vers des élections inclusives, libres et transparentes, a expliqué le lieutenant-colonel Somda à l'ouverture ce matin. Les travaux risquent de prendre de longues heures selon des participants. Le président de la transition devrait être désigné à l'issue de ces assises, puis il sera investi mercredi. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En Guinée, des heurts ont opposé ce lundi à Conakry, forces de sécurité et partisans de l'ex-ministre Sélou Dalein Diallo, à qui les militaires au pouvoir ont ordonné, ainsi qu'à une autre figure politique, de quitter leur maison. Au Tchad, une trentaine de personnes ont été tuées, une cinquantaine d'autres blessées dans la collision de deux bus de transport de passagers la nuit dernière dans le centre du pays. En République démocratique du Congo, 20 civils ont été tués dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des forces démocratiques alliées dans le village de Kikoura, dans l'est du pays. Ce village est situé à environ 15 km de Mukakati, une base de l'armée ougandaise venue depuis fin novembre combattre les ADF sur le territoire de la RDC avec l'accord des autorités congolaises. Et puis le gouvernement du Congo a annoncé la levée du couvre-feu en vigueur dans les deux principales villes du pays ainsi que la réouverture des frontières fluviales et terrestres après avoir constaté une régression notable de l'épidémie du Covid-19. Les conséquences dévastatrices du changement climatique sont devenues une réalité aux quatre coins de la planète. C'est ce que révèle un rapport de l'ONU sur le climat publié ce lundi. Le point avec Nanit Talani.
Sécheresse, inondations, canicules, incendies, insécurité alimentaire, pénurie d'eau, maladies, montée des eaux. Le rapport dresse un tableau sans fin des souffrances endurées par l'humanité à cause du réchauffement de la planète. Et selon ce rapport de l'ONU, même un dépassement temporaire de 1,5 degré Celsius pourrait provoquer des dégâts irréversibles sur l'homme et les écosystèmes déjà fragiles. À l'horizon 2050, environ 1 milliard de personnes vivront dans des zones côtières à risque. Des milliards d'autres seront exposés à une augmentation sensible des maladies et des morts prématurées. L'ONU met en garde contre le réchauffement qui va plus vite que les mesures pour s'adapter. Mais si l'on s'en tient aux engagements actuels, les émissions devraient augmenter de près de 14% au cours de cette décennie, dénonce Antonio Guterres. Le rapport onusien s'indigne de l'inaction criminelle des dirigeants qui risquent de réduire les faibles chances d'un avenir vivable sur la planète.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Jean-Roger Bion.
Libreville, la capitale du Gabon, accueille un conclave de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO. Cette réunion est destinée à explorer les options d'appui à la jeunesse et aux femmes entrepreneurs en agriculture. 8 pays de la sous-région sont représentés à ce forum. Le conclave se tient dans un contexte où les Gabonais se plaignent de l'augmentation des prix des produits de première nécessité. La Chine impose à l'Ouganda un contrat léonin pour l'agrandissement de l'aéroport d'Entebbe, selon le Centre de recherche américain Aid Data. Ce contrat contraint l'Ouganda, selon l'organisation américaine, à placer la totalité des revenus de l'infrastructure dans un compte séquestre. Les banques chinoises sont les premiers bailleurs de fonds des infrastructures en Afrique, mais Pékin est parfois accusé de prendre ses clients au piège de la dette avec des emprunts qu'ils ne parviennent pas à rembourser. Le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio s'est rendu lundi en Algérie pour discuter avec son homologue d'une augmentation des fournitures de gaz en provenance de l'Algérie pour compenser une éventuelle baisse côté russe. Nous discuterons du renforcement de la coopération bilatérale, en particulier pour répondre aux besoins en matière de sécurité énergétique européenne à la lumière du conflit en Ukraine, a tuité M. Di Maio peu après son arrivée à Alger.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Basketball pour commencer. Fin de la deuxième phase des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Zone Afrique à Dakar. Les 6 équipes qualifiées pour la phase finale qui aura lieu en août prochain sont connues. Dans le groupe D, après son faux pas contre la RDC, le Sénégal s'est repris en dominant le Kenya 100-55, validant du coup son billet pour la suite de ses éliminatoires, tout comme l'Égypte et la RDC. Dans la poule B, le Soudan du Sud a été impressionnant en signant 3 victoires en autant de matchs. La dernière, 74-68 face au Cameroun. Décevant, avec 2 défaites et 1 victoire, les Camerounais seront bien au dernier tour après la victoire de la Tunisie sur le Rwanda, 66-51. Cyclisme avec le Tour du Rwanda, Nathanael Tesfazion remporte cette 14e édition. Comme en 2020, l'Érythréen finit en tête du classement général et le maillot jaune sur les épaules. Tesfazion remporte donc pour la 2e fois de son histoire le Tour du Rwanda. Et cette fois-ci, au terme de la dernière étape qui s'est achevée hier dans les rues de Kigali par la victoire de Moïse Mugisha, le Rwandais devance les Français Sandy Dujardin et Alexandre Géniez. À noter que Kigali accueillera en 2025 les mondiaux sur route. Football à présent avec la 3e journée de la phase de poule des matchs interclubs sur le continent. En Ligue des champions, le tenant du titre Al Ahly chute à domicile battu 1-0 par les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Dans le groupe B, le Raja de Casablanca signe sa 3e victoire de rang. Par contre, les Guinéens de Oroya AC enregistrent leur 3e revers et se rapprochent plus de la sortie. Contre-performance aussi pour le Zamalek du Caire, battu 3-1 par le Wydad Casablanca. Dans la poule C, l'Espérance de Tunis a lâché ses premiers points après avoir concédé le nul à domicile 0-0 face à l'Étoile du Sahel. Football toujours, l'invasion de l'Ukraine par la Russie crée d'énormes difficultés aux sportifs évoluant en Ukraine. C'est le cas du footballeur sénégalais Pape Djibril Diaw qui évolue dans le championnat ukrainien à Rouk-Lviv en première division. Il a dû quitter l'Ukraine avec sa voiture pour rallier la France en passant par la Pologne, ensuite l'Allemagne, pour retrouver enfin la France donc où se trouve sa famille. Joint par téléphone par notre consultant Amdinsi, Djibril Diaw témoigne.
Nous, le jeudi, on a été arrivé par une sirène. Par la suite, on s'est informé du côté du club et ils nous ont fait savoir qu'il y avait certaines parties du pays qui ont été attaquées. Finalement, ils ont annulé la séance du jour pour nous dire que le championnat a été suspendu. On a de suite essayé de quitter le pays parce qu'on sentait que ça devenait dangereux et qu'à tout moment, les bombardements pouvaient arriver à Lviv. Finalement, on a réussi à traverser la frontière polonaise vers minuit.
L'international sénégalais Pape Djibril Diaw.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg toujours avec vous. Place au dossier du jour. La Russie est au banc des accusés ce lundi à l'Assemblée générale des Nations unies, qui tient une réunion sans précédent depuis plusieurs décennies. L'invasion de l'Ukraine sera aussi au cœur du premier discours de l'État de l'Union de Joe Biden demain soir devant les deux chambres réunies du Congrès américain. Davantage avec Arash Arabasadi, le récit Yacouba Ouedraogo.
La Russie est jugée ce lundi à l'Assemblée générale de l'ONU lors d'une session extraordinaire d'urgence de ses 193 membres. Cette réunion sans précédent depuis 40 ans a débuté par une minute de silence à la mémoire des victimes en Ukraine, puis les discours du président de l'Assemblée, Abdullah Shahid, et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Une mise au vote d'une résolution est attendue à la fin des interventions et qui devrait se prolonger jusqu'à mardi, peu avant le premier discours sur l'état de l'Union du président Joe Biden. L'Ukraine reste sous attaque des forces russes qui se frayent un chemin vers la capitale Kiev. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont renforcé ces derniers jours les sanctions contre l'infrastructure financière de la Russie dans l'émission This Weekend d'ABC. L'attaché de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a expliqué ces sanctions.
Les sanctions que nous avons annoncées mettent la Russie sur un pied d'égalité avec l'Iran, la coupant d'un système bancaire mondial. Nous avons aussi sanctionné 80% de leurs banques et de leurs secteurs financiers.
Conséquence immédiate de ces sanctions, la devise russe a fait un plongeon historique, s'échangeant à 100 roubles pour un dollar. Ce qui réveille les vieux démons de l'instabilité financière des années 1990, lorsque des millions de personnes ont vu leur épargne bancaire disparaître sous le double effet de la dévaluation du rouble et de l'inflation. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié ces sanctions d'inamicales. Hier, dans l'émission This Weekend d'ABC, l'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis, Oksana Markorova, a appelé les entreprises américaines à quitter la Russie.
Il s'agit d'une guerre injuste et je pense qu'il est temps pour de nombreuses entreprises américaines de repenser à sauver des réputations et à ne pas coopérer avec un régime qui se retrouvera à la haie pour tout ce qu'il a fait et fait maintenant en Ukraine.
Le sénateur républicain Tom Cotton, membre du comité des services armés, a déclaré dans l'émission ABC This Weekend que les sanctions de la Maison-Blanche ne vont pas assez loin.
Il est temps de retirer toutes les institutions financières russes du système de paiement international. Il est temps d'imposer des sanctions sur les exportations de pétrole et de gaz de Poutine, ce qu'il utilise comme principal moyen de soutien financier.
D'ailleurs, les ressortissants américains doivent envisager de quitter la Russie immédiatement par les options de voyage commercial ou encore disponibles selon le département d'État américain, prévenant que les options de vols commerciaux vont diminuer rapidement en raison des sanctions qui incluent la fermeture de l'espace aérien de nombreux pays aux avions russes. Le président Joe Biden doit prononcer demain soir son discours sur l'état de l'Union devant une session conjointe du Congrès.
Concernant l'Ukraine, de nombreux Africains tentent de rejoindre les pays voisins pour fuir les violences. Arzuma Compaoré a pu joindre Aruna Zongo, président de la communauté burkinabé en Ukraine, qui explique comment il a réussi à atteindre la ville de Cracovie en Pologne.
La situation actuellement sur le terrain, c'est la tristesse, la désolation, parce que on n'a plus les nouvelles les uns des autres. Chacun essaie de regagner les pays frontaliers de l'Ukraine, en l'occurrence la Hongrie, la Pologne et la Moldavie. C'est très difficile de trouver un moyen de déplacement pour pouvoir quitter Kiev, par exemple, rejoindre Lviv où il y a les frontières. Pour quitter la ville d'Lviv et arriver au niveau de la frontière, en temps normal, c'est moins d'une heure de route. Et ça ne coûte même pas 400 grivres. l'équivalent de 12 dollars. Mais avec la crise, ben, pour pouvoir atteindre la frontière, il faut débourser 200 dollars, voire 250 dollars pour pouvoir atteindre juste la frontière. Et là encore, vous descendez, vous devez marcher encore une vingtaine de kilomètres pour pouvoir arriver au niveau de la frontière. Les cartes bancaires ne fonctionnent plus, et il n'y a pas de liquidité dans les distributeurs de billets. On a passé à peu près deux jours à la frontière avant de pouvoir passer. Des Congolais, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Nigériens, on était vraiment beaucoup.
Quelle autre difficulté vous avez pu rencontrer pendant cette traversée?
Il y a pas mal de nos compatriotes qui sont actuellement à la frontière, qui ne peuvent pas traverser parce que hier, par exemple, il y a eu un désordre au niveau de la frontière polonaise avec la communauté noire, parce que il y a une forme de discrimination où il faut prioriser les Ukrainiens à sortir, mais quant aux Africains, ben c'est très difficile et nous sommes négligés. À la limite, on ne dirait pas qu'il y a une forme de racisme là-bas, mais bon, c'est très difficile pour les étrangers. Et il faut dire qu'il y en a aussi qui, pour des raisons familiales, comme les familles étant grandes avec des enfants, qui refusent pour le moment de quitter, qui sont encore là-bas, qui refusent de quitter, qui veulent voir l'évolution de la situation. Et qui disent qu'ils ne peuvent pas prendre les enfants, courir, parce qu'il faut vraiment marcher sur une longue distance.
Est-ce que vous avez été contacté par les autorités burkinabées?
Nous avons été contactés par l'ambassade de Burkina Faso à Moscou, qui nous ont envoyé une correspondance pour dire qu'ils sont en train de discuter avec Ouagadougou. Mais concrètement, on attend encore de voir un soutien de la part des autorités burkinabées.
C'était Haruna Zongo, président de la communauté burkinabé vivant en Ukraine.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Nigeria, les électeurs se rendront aux urnes pour les élections générales le 25 février 2023, selon la Commission électorale nationale indépendante. Cette annonce faite à Abuja intervient après la signature de la nouvelle loi électorale par le président Muhammadu Buhari sous la pression des organisations de la société civile. Le point avec Gilbert Tamba à Abuja.
Initialement prévu pour le 18 février 2023, la Commission nationale électorale indépendante a revu son calendrier électoral pour épousser d'une semaine la présidentielle et les législatives. Raison, le refus du président nigérian de signer la nouvelle loi électorale de 2021 dans la période que lui accorde la Constitution. Le président de la CENI, Muhammadu Yakubu.
La commission a décidé de repousser les dates des élections de 2023 pour être en conformité avec la nouvelle loi. À cet effet, l'élection présidentielle et les législatives se tiendront le samedi 25 février
2023.
La veille, le président Muhammadu Buhari, sous la pression des organisations de la société civile et des leaders d'opinion, a finalement accepté de signer la nouvelle loi électorale corrigée qu'il avait rejetée en décembre dernier.
Je signe le projet de loi et je demande à l'Assemblée nationale d'effectuer quelques amendements qui seront en conformité avec la Constitution en supprimant la section 12 de l'article 84 la nouvelle loi électorale.
84,
la nouvelle loi permet désormais la transmission électronique des résultats des élections au Nigeria, mettant fin à des années de controverses. Les Nigériens estiment que la collecte et la transmission manuelle des résultats des élections est l'un des facteurs de fraudes électorales généralisées. La réaction de l'activiste et directrice Action Aide Nigeria, Neobi.
This has happened, I will say. Thank you, Father of the Nation.
Je dis merci au Père de la Nation pour ce geste. Nous espérons que les citoyens vont profiter de l'opportunité du processus des inscriptions électorales en cours pour se faire inscrire sur les listes électorales. Nous espérons aussi que cela va donner plus de confiance aux Nigérians.
L'opposition a salué la nouvelle avant les élections de l'année prochaine, mais exprime ses inquiétudes sur le respect de la loi promulguée par le président. Yabagi Youssouf Sanich du parti Action démocratique ADP.
Je crois que des lois sont votées, mais ce qui manque, c'est leur application. Pendant le vote, les gens vont toujours trouver des moyens pour faire usage de l'argent, pour l'achat de conscience, pour influencer les électeurs.
La promulgation de la nouvelle loi électorale ouvre la voie à des élections plus crédibles au Nigeria. Les échéances électorales de 2023 sont considérées cruciales pour trouver un successeur au président Muhammadu Buhari, qui est en son deuxième et dernier mandat dans un contexte d'insécurité grandissante. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le conflit en Ukraine et ses retombées au plan international. La Russie a finalement envahi son voisin après des semaines de tensions à la frontière. Moscou dit avoir agi pour sa propre sécurité alors que Kiev revendique le droit de se choisir ses alliés. Une crise au cœur de l'Europe qui suscite de nouvelles inquiétudes sur ses conséquences sécuritaires et économiques au-delà du vieux continent. Comment en est-on arrivé là? Quelles répercussions dans le reste du monde, y compris en Afrique? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
La Somalie n'a pas réussi une fois de plus à respecter la date pour l'achèvement des élections longtemps repoussées. L'Assemblée consultative nationale du pays, qui est présidée par le Premier ministre Mohamed Hussein Roblé, a prolongé la date pour l'achèvement des élections législatives au 15 mars, alors qu'elles étaient prévues le 25 février. Les États-Unis ont donc imposé des restrictions de visa à un certain nombre de responsables somaliens, y compris des dirigeants régionaux soupçonnés d'entraver le processus électoral. C'est un reportage de Mohamed Sheikh Nor depuis Mogadiscio. Le récit est de Rosine Mounezero.
Dans un communiqué de presse annonçant des restrictions de visa ciblant certains Somaliens dont les noms n'ont pas été cités, les États-Unis exigent l'achèvement rapide des élections législatives et présidentielles de manière transparente et crédible. Selon les responsables américains, l'interdiction de voyager vise à promouvoir la responsabilité et à punir ceux qui entravent le processus électoral. Hassan Barissé, journaliste qui se présente aujourd'hui à la présidence, soutient l'interdiction.
Nous apprécions la décision des États-Unis d'Amérique et nous apprécions également tout autre effort qui soutiendrait le processus électoral de la Somalie.
Il ajoute que les conséquences de retard continu peuvent créer des problèmes irréversibles, détruisant les progrès récents. Monsieur Balissé estime également que les Nations Unies et d'autres partenaires internationaux devraient exercer davantage de pression pour sanctionner les personnes qui sabotent le processus électoral. Pour Mohamed Adé, militant somalien, des sanctions plus sévères sont nécessaires.
Cela fait un certain temps que cela aurait dû être fait. Les États-Unis d'Amérique et le reste de la communauté internationale ont dépensé beaucoup d'argent pour établir un système démocratique dans ce pays. Un certain nombre de politiciens somaliens semblent traîner les pieds lorsqu'il s'agit d'organiser des élections indirectes.
Pour M. Adé, les fauteurs de troubles doivent être nommés et faire l'objet de poursuites judiciaires. Selon lui, le processus électoral est lent et les Somaliens en ont assez et il est urgent de prendre des mesures drastiques. À Mogadiscio, il existe un large consensus sur l'imposition de restrictions en matière de visa aux dirigeants somaliens afin de les empêcher de se rendre aux États-Unis, où résident un grand nombre de familles d'hommes politiques somaliens qui possèdent parfois la double nationalité.
Fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagnot. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, Rada FM 90.5 Mbujimayi, 93.5 FM Lomé,
Clédou FM 90.5 Sikasso Mali et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.